Le tableau s'appelle « Alice dans le miroir ». C'est une huile sur toile qui mesure 162 cm de hauteur pour 112 de large. Il est signé et daté en bas à gauche « Balthus 1933 ». Il a été montré pour la première fois dans l'exposition que Pierre Loeb consacre à Balthus en 1934 et à qui l'année suivante par Pierre-Jean Jouve qui l'a conservé tout au long de sa vie. La toile était accrochée au-dessus de son lit. Le tableau appartient maintenant au Musée national d'art moderne. Le modèle de Balthus s'appelait Betty Leiris. Elle était la sœur de Pierre Leiris, camarade de classe de Pierre Klossowski, frère de Balthus. Et Pierre Leiris deviendra un des plus grands traducteurs de la littérature anglaise en France. Betty et Pierre Leiris ont posé à de nombreuses reprises dans les années 1930 pour Balthus. Le titre du tableau, Alice dans le miroir, a été longtemps interprété comme une référence à Alice au pays des merveilles, comme si tous les miroirs ne devaient réfléchir que l'ombre agissante de Lewis Carroll. C'est un coin de pièce, et même plus encore un bout d'angle. Au mur, il n'y a rien, juste une plinthe en bas et puis le parquet. Une chaise ordinaire, canée, sert d'appui à une fille qui y a posé son pied chaussé d'escarpins bleus. Elle y a donc posé un pied, l'autre est par terre, ce qui lui relève une jambe presque à angle droit. Elle porte une robe très courte et le mouvement de sa jambe en accentue encore le relèvement jusqu'à la taille et le sexe dont on devine les replis. Très droite, la fille est occupée à démêler ses cheveux mi-longs et bouclés, la tête très légèrement penchée, le regard clair, les grands yeux ouverts comme le sont parfois ceux des aveugles. Ses bras levés laissent voir, volumineux et légèrement tombant, un de ses seins que la robe non attachée ne couvre plus. L'allusion au miroir dans le titre nous permet de comprendre le dispositif de la toile et son prétexte. Il s'agit, on le voit, d'une jeune fille qui se coiffe devant son miroir, et Balthus se met très exactement et nous avec à la place du miroir, associant dans la même œuvre les deux genres que sont les femmes à la toilette et les femmes au miroir. Rien que de très classique, en somme, est sûrement revendiqué comme tel, mais dans le même temps complètement subverti par l'étrangeté du dessin, mélange de finesse, morceaux de peinture d'une si exacte précision, d'une charnalité si intense, écrit Jouve, mélange de finesse et de maladresse, de banalité, de candeur et de grossièreté. Son sein gauche lourd et ses cuisses presque masculines ne faisaient pas naître les obscurs désirs, enfants du passé, que peut-être elle eût éveillé si elle avait été tout entière mieux accordée à ses deux souliers bleus portés sur la peau, écrit le même Jouve. Le trouble que cette toile ne peut pas ne pas provoquer vient sans doute de ce traitement du dessin, pour ainsi dire bancal, et de l'incongruité de la situation. Pourquoi cette femme qui se coiffe ressent-elle le besoin de lever la jambe pour se faire voir ? Pourquoi est-elle à moitié habillée ? Pourquoi en deux mots cette mise en scène si peu plausible ? Il n'y a personne à aguicher et le voudrait-elle que sa grossièreté en interdirait de facto toute perspective ? Et de fait, elle ne nous aguiche pas. Cela aurait été sûrement le but recherché par une femme à la toilette et plus encore par une femme au miroir, ou toute autre œuvre qui aurait sincèrement joué le jeu de la beauté plus ou moins idéale, à tout le moins d'une représentation féminine reprenant les canons en usage, fût-ce à minima. Mais il n'en est rien. Et loin de nous séduire, cette œuvre nous heurte. Cette présence, on ne manquera pas de remarquer que le sexe d'Alice est placé exactement au centre de la toile. Cette présence, la fille aveugle nous tient, elle ne nous voit pas, et personne d'ailleurs dans le miroir, elle n'a pas d'image, on ne l'atteint pas. Face à elle, nous sommes réellement désarmés. Cette présence purement fantomatique, mais c'est exprès, hein, cette jambe relevée. Et notre regard qui glisse le long des cuisses et remonte, ne peut que remonter. Ce que nous voyons là, en réalité, nous regarde. Cet œil sous la jupe. Une impossible présence, une apparition, il y a là un vrai danger. Lorsque j'eus compris qu'Alice voulait faire l'amour avec moi, écrit Jouve, je me sentis considérablement effrayé. Le sadisme de cette image voulait de moi la chair et l'esprit. À quoi pourrait-on mesurer la force d'une image si ce n'est au pouvoir qu'elle exerce sur ceux qui la regardent ? L'enchantement prend ici des allures rauques. Le malaise que provoque Alice ne vient pas uniquement du fait qu'elle nous montre ce qu'elle ne devrait pas nous montrer, qu'on découvre alors qu'on ne devrait pas le voir, exhibition et voyeurisme s'annuleraient en quelque sorte, mais plus sûrement par l'enchaînement des causes et des effets, comme une cascade, presque une chute. Le malaise vient de ce que rien, ni la décence, ni la peur, ni la convoitise n'a pu empêcher cela d'arriver et que cette vision à la fois brutale et subtile a précisément un caractère hypnotique. Cette toile est fascinante et elle exerce sur le spectateur un vrai pouvoir d'attraction. Jouve, qui a vécu avec elle, ne la décrit pas autrement. Elle disparaît. Un jour, en m'éveillant, je fus stupéfait. Je voyais le cadre, une épaisse moulure grise et la toile à sonorité générale de jaune. La figure avait disparu, écrit-il. Elle disparaît pour l'entraîner en une sorte de transe vers des espaces de plus en plus étrangers. Cette toile est hypnotique, possessive, agissante, dangereuse. En réalité, elle est absolument, radicalement indécente, obscène. L'obscénité, c'est un miroir. L'image réfléchie d'un corps aveugle, l'image aveuglée et aveuglante d'un corps qui s'offre sans s'offrir. L'obscénité, c'est ce regard qui nous tient dans sa laisse, ce bout de chair froissé à la croisée des cuisses, cet espace vide, cet angle mort, cette solitude d'une qui se prépare, pour qui, pour quand, à quoi. Une sorte de théâtre, toute la magie et l'effroi des corps qui chutent. L'obscénité, c'est ce miroir quand il a livré son secret. Notre regard malgré nous, notre désir malgré tout. Cette violence, le pays des merveilles, a ses nuits sans lune, et Alice a sous sa jupe une bouche qui chante une rengaine mortelle. Le goût du sang et l'odeur âcre de la terre, le désir qui nous revient en boomerang comme une balle de revolver. Pluie d'étoiles tombées parmi les chevelures, je veux un ciel tout nu sur un globe désert, où des brouillards mettront une robe de bure, aux mortes adorées pourrissant hors de terre, écrivait Desnos en ces mêmes années. Et dites-moi un peu, pourquoi ai-je rêvé cette nuit alors que j'ai commencé à écrire ce texte hier? Pourquoi donc ai-je rêvé d'une jeune fille qu'on tuait dans la rue sous mes yeux? Jeune fille ressemblant étrangement, non pas à celle d'Alice, mais à celle d'une autre toile de Balthus, la fenêtre ou la peur des fantômes, dont on sait que le modèle en était également Betty Leris. Pourquoi donc cette infinie tristesse qui m'a alors envahi, et dont, à vrai dire, je ne suis pas encore sortie?